Laudetur Jesus Christus.
Le pape François réforme l'usage du missel de 1962 par un motu proprio publié aujourd'hui, Traditionis Custodes. Il abroge le précédent texte remontant au pontificat de Benoît XVI sur la messe en latin. Inondations en Allemagne et en Belgique. Selon un dernier bilan, 118 personnes en tout ont perdu la vie ces dernières heures dans ces deux pays. Nous ferons le point en Allemagne, la plus meurtrie. Nous entendrons également le témoignage de l'évêque de Liège, Mgr Delville, dont le diocèse est également concerné par la montée des eaux. Nouveau bouleversement politique en Irak, Moqtada Sadr, le principal chef chiite, décide de ne pas participer aux législatives d'octobre. Sa prise de distance avec le gouvernement s'est accentuée depuis l'incendie de l'hôpital de Nasiriya.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Traditionis Custodes, c'est donc le nom de ce nouveau motu proprio rendu public ce vendredi, 14 ans après le décret Summorum Pontificium, par lequel Benoît XVI libéralisait la messe en latin sous le nom de rite romain extraordinaire. François édicte donc de nouvelles normes sur l'usage du missel de 1962. Manuela Figi, quelles sont les principales mesures qui sont prises avec ce motu proprio?
Eh bien, tout d'abord, on note une responsabilité accrue de l'évêque. C'est lui le modérateur de la vie liturgique diocésaine. C'est donc à lui qu'incombe d'autoriser ou non le recours au missel de 1962 selon les directives du Saint-Siège. À partir de maintenant, Xavier, les messes suivant l'ancien rite ne seront plus dites dans les églises paroissiales. Si l'évêque donne son accord, c'est lui qui indiquera l'église, les jours des célébrations et désignera le célébrant. Les lectures ne seront plus en latin mais en langue vernaculaire et puis il décidera de l'opportunité ou non de maintenir les célébrations en vérifiant leur utilité pour la croissance spirituelle des fidèles.
Et qu'en est-il des prêtres qui veulent célébrer la messe en rite extraordinaire?
Alors les prêtres ordonnés après la publication de ce motu doivent adresser une demande formelle à l'évêque pour cela et lui-même consultera le siège apostolique. Les prêtres qui célèbrent déjà ainsi doivent demander la permission à leur évêque de continuer.
Le pape explique-t-il les raisons de ce choix?
Oui, tout à fait. Dans une lettre qui accompagne d'ailleurs ce motu, il explique que ses prédécesseurs, dont Benoît XVI, voulaient travailler à la recomposition de l'unité de l'Église. Il y a 14 ans, le pape émérite affirmait que les craintes de scission n'étaient pas fondées et que les deux rites pouvaient cohabiter. Or, une enquête montre le contraire. François se dit chagriné et inquiet, car il constate que ce désir d'unité a été méprisé et que les concessions offertes ont été utilisées pour accroître les distances, dit-il, et construire des oppositions qui blessent l'Église et risquent de la diviser.
Alors, y a-t-il un point en particulier, Manuela, qui suscite l'inquiétude du pape?
Oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait un rejet croissant de la réforme liturgique de 1970 et au-delà du Concile Vatican II lui-même, dont on dit qu'il trahit la tradition de l'Église. C'est là une affirmation insoutenable pour le pape. Douter du Concile, c'est douter de l'intention des pères qui ont travaillé cum et sub petro. C'est douter de l'Esprit Saint en définitive. Certains utilisent l'ancien rite pour rejeter l'Église. Cette attitude contredit la communion. Le pape conclut donc solennellement, Xavier, c'est pour défendre l'unité du corps du Christ que je me vois contraint de révoquer la faculté accordée par mes prédécesseurs.
Manuela Figi, pour plus de précisions si c'était nécessaire sur ce motu proprio, une seule adresse, www.vaticannews.va. L'actualité internationale dominée par les inondations en Europe, tout particulièrement en Allemagne, le pays le plus touché. De nouvelles montées des eaux et des glissements de terrain ont provoqué la mort de 93 personnes selon un bilan provisoire dans l'ouest du pays, dans le bassin rhénan. Une centaine de personnes sont portées disparues et certaines sources évoquent même le nombre de 1300. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
Un glissement de terrain s'est produit ce matin à une quarantaine de kilomètres de Cologne, détruisant de nombreuses maisons à Erfstadt. Il y a des morts et des disparus, confirme la commune, sans préciser le nombre des victimes. Des appels d'urgence proviennent de certaines des maisons sinistrées, mais il est pour l'instant impossible aux secours de leur apporter de l'aide. Les images de la zone montrent un gigantesque cratère dans lequel se déversent des masses d'eau et de boue. Le réseau téléphonique mobile n'a toujours pas été rétabli dans certaines régions. région de l'ouest de l'Allemagne et un barrage menacé ce matin de lâcher. Ailleurs, une fuite de gaz complique le travail des secouristes. Plus à l'est toutefois, certains habitants ont pu regagner leur domicile ce matin. À quelques semaines des élections législatives, les autorités régionales ne pourront échapper à un débat autour de la prévention des risques naturels et de la gestion des évacuations. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
Hier, le pape a envoyé un télégramme au président allemand pour l'assurer de sa prière et de sa proximité envers les victimes et leurs proches, ainsi que de son soutien pour tous les sauveteurs. La Belgique aussi est frappée par ces inondations, principalement le sud et l'est du pays. C'est la Wallonie qui paie pour le moment le plus lourd tribut. Selon un dernier bilan officiel, 15 personnes ont perdu la vie, 4 sont encore portées disparues. Plus de 21 000 personnes étaient toujours privées d'électricité et de gaz. Les transports publics sont toujours fortement perturbés, de nombreuses route étant coupée. Dans un communiqué publié hier, l'évêque de Liège, ville touchée par la montée de la Meuse, a appelé à la solidarité avec ses proches et ses voisins, indiquant que les locaux paroissiaux ou les églises peuvent être mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Monseigneur Jean-Pierre Delville revient sur la situation générale dans son diocèse.
De nombreuses familles sont touchées par la disparition de leur maison, pratiquement, ou en tout cas l'inaccessibilité de la maison, se retrouvent vraiment sans toit, se retrouvent complètement démunis. Moi, j'ai dû gérer de façon directe la situation de nombreux prêtres qui étaient isolés au deuxième étage de leur presbytère, ne sachant pas descendre à cause de la montée des eaux, n'ayant pratiquement rien à manger, rien à boire et pas d'électricité, pas de moyens de communication. L'évêché lui-même était investi par la Meuse qui lèche le bâtiment. Il s'en est fallu d'un mètre pour que l'évêché ne soit envahi avec tous les bâtiments historiques ici, de l'église, de la bibliothèque et les services diocésains. Mais heureusement, nous avons été épargnés à un mètre près et l'angoisse de la journée petit à petit s'est apaisée quand on a vu le niveau de la Meuse qui commençait à baisser le soir. Le centre névralgique du diocèse et de la ville de Liège étaient épargnés. Par contre, les faubourgs ont été terriblement marqués.
Monseigneur Jean-Pierre Delville, l'évêque de Liège, voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée sur la situation en Belgique et en Allemagne, les deux pays les plus touchés par la montée des eaux qui n'épargnent pas cependant l'est de la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. 75 enfants tués et 1000 autres environ arbitrairement détenus depuis le coup d'état militaire en Birmanie le 1er février dernier. C'est ce que dénonce le comité des droits de l'enfant à l'ONU qui parle de meurtre par la junte militaire et la police birmane. Les enfants de Birmanie sont assiégés et risquent de subir des pertes de vie catastrophiques à cause du coup militaire, a ainsi déclaré Mikiko Otani, la présidente du comité des droits de l'enfant. La police et l'armée afghane tentent de reprendre depuis ce matin le poste frontière stratégique de Spin Boldak aux confins avec le Pakistan. Ce point de passage est déterminant pour accéder à Kandahar, la grande ville du sud de l'Afghanistan. Il est contrôlé depuis mercredi par les talibans. Lors des combats, un photographe de l'agence Reuters a été tué. En Irak, nouvelle donne politique, Moqtada al-Sadr jette l'éponge. Le très influent chef religieux chiite, suivi au doigt et à la lettre par plusieurs millions de fidèles, s'est en effet engagé à boycotter les élections générales d'octobre prochain. Sa décision fait suite à l'embrasement cette semaine de l'unité Covid de l'hôpital Al-Hussein de Nassiriya, au sud de l'Irak, où plus de 120 personnes ont trouvé la mort suite à l'explosion de cuves d'oxygène. Les explications à Bagdad d'Anne-Sophie Lomov.
Derrière le refus de l'emblématique Moqtada al-Sadr de participer aux législatives d'octobre, la corruption des politiques qui, dénonce-t-il, ont brûlé et brûlent encore la nation. Le chef religieux chiite a su retirer son soutien à ceux qui travaillent pour le gouvernement actuel ainsi qu'au prochain. Al-Sadr, sans être lui-même élu, dirige le plus grand bloc politique, Saïroun, qui a gagné la majorité des sièges parlementaires aux élections de 2018. Il virulent critique des interférences américaines en Irak, distant de l'Iran, il reproche au gouvernement de Mustafa al-Kadhimi de ne pas avoir conduit des réformes comme le réclamait la rue. Pour le chef du gouvernement, ce boycott est inconcevable. Le mouvement sadriste est un important segment de la société et c'est inimaginable de ne pas participer aux élections, a-t-il dit. Jusqu'à cette déclaration qui a pris de court la classe politique irakienne, les sadristes cherchaient à remporter le plus grand nombre de sièges pour ravir le poste de Premier ministre. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio Vatican.
« Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain Autour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, l'information continue sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.